Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Lundi 4 avril, bonne journée, bienvenue au 98.5, une belle journée qui s'amorce. En fait, c'est un beau début de semaine parce que la semaine se divise en deux. On prévoit du temps ensoleillé aujourd'hui, maximum autour de 10 degrés. Demain, soleil-nuage 11 et mercredi, encore là, soleil-nuage, mais beaucoup de soleil autour de 10 degrés. Par contre, on prévoit de la pluie, beaucoup de pluie jeudi, 20 à 25 mm, et des averses également sont au menu vendredi. Le point sur la guerre en Ukraine, 40e jour donc des combats, et il y a ces images terribles que nous avons vues depuis les derniers jours, ce massacre à Boutcha. Au moins 400 civils ont été assassinés, et c'est de voir des gens les mains liées dans le dos, abattus en pleine rue, les fosses communes, je le disais. Tetiana Ogarkova est avec nous. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
Je crois que vous avez eu plusieurs témoignages d'amis donc qui vivent ou qui avaient des maisons à Boutcha.
Oui, tout à fait. On reste sans mots depuis hier matin, en fait, en regardant les photos et les vidéos qui nous proviennent de Boutcha. Boutcha, une banlieue au nord de Kiev qui a été libérée par l'armée ukrainienne il y a quelques jours. Donc, on a des témoignages de nos amis qui vivent une émotion extrêmement dramatique en revenant dans les rues de Boutcha. Justement, il y a une fosse commune. On voit beaucoup de civils qui sont abattus, y compris les hommes, mais aussi les femmes. Les femmes violées qui ont été pendues. Ensuite, un groupe de femmes nues enveloppées dans un tapis et que les occupants russes ont essayé de brûler à côté de la route. Donc, toutes les images sont atroces. On reste vraiment sans mots puisqu'on voit que ce n'est pas du tout justifié par aucun objectif militaire. Il s'agit d'un acte génocidaire. Aujourd'hui, après les images qu'on a vues, je lis un article de RIA Novosti, c'est un site russe. On lit expressément que les Russes parlent non plus de la dénazification. Aujourd'hui, ils parlent de la déukrainisation, en fait. Ça veut dire qu'il s'agit d'une guerre d'extermination, il s'agit d'une guerre pour tuer tout simplement les civils, les Ukrainiens, qu'ils soient civils, les militaires, peu importe. Aujourd'hui, ce qu'on sait déjà, c'est que les pertes militaires ukrainiennes sont largement inférieures aux pertes militaires russes. Donc je ne vous donnerai pas des chiffres parce qu'on n'est pas sûr des chiffres. Donc je connais les chiffres, mais c'est inofficiel. Mais c'est vraiment 5 à 10 fois moins. Par contre, le nombre de civils ukrainiens qui ont déjà péri dans ce conflit, il est énormissime. On ne sait rien pour le destin de Mariupol. Les chiffres officiels sont de 7 000, mais on peut déjà prévoir qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Donc il s'agit d'une guerre d'extermination, il s'agit d'une guerre génocidaire qui on peut ni oublier, ni pardonner, ni comprendre, en fait. Ni comprendre, parce que là, on dépasse le sens, en fait.
Mais, Tetiana, si on découvre autant de fosses communes, de civils assassinés quand les Russes quittent et que les Ukrainiens reprennent le contrôle. Si c'est vrai pour Boutcha, on peut penser à Mariupol ou d'autres villes comme ça qui ont été encore plus largement attaquées.
Oui, justement, Boutcha, c'est une ville de 60 000 habitants. Donc 60 000 habitants, c'est pas énorme. Après, on se pose des questions sur ce qu'on va découvrir et on va découvrir un jour ce que s'est passé à Mariupol ou ce qui s'est passé dans les régions de Kharkiv ou dans les régions de Kherson. Kherson est occupé aujourd'hui. On sait qu'il y a des persécutions des activistes, des journalistes, des gens qui sont déjà sous contrôle russe. On prévoit que ça sera extrêmement grave. Déjà, dans les jours précédents, il y avait une commission nationale formée. On documente tout. Donc, nous, les Ukrainiens, on reçoit des SMS de la provenance des institutions d'État qui nous disent d'informer, de témoigner, de fixer. Il s'agit maintenant de fixer les crimes, puisque après, je ne sais pas pour combien de décennies, on va on va avoir des procès, puisque bien sûr que tout sera puni. On n'a pas de doute, on espère que tout sera puni. Mmh. On connaît par exemple les noms de les titres exacts des unités militaires qui étaient présentes à Boutcha. On connaît les noms de famille de leurs commandants. Donc bien sûr qu'il y aura des procédures, ils seront longues puisqu'il y avait des meurtres étaient aussi nombreux, mais tout simplement il s'agit, donc l'État ukrainien s'organise aujourd'hui pour tout documenter, chaque mort, chaque torture, chaque disparition, il y a beaucoup de gens disparus, donc tout ça c'est un travail pour des décennies, bien sûr, après la victoire bien sûr, mais c'est un travail nécessaire. Puisqu'il faut s'ouvrir les yeux, il faut que les citoyens russes qui se disent qu'on est, nous, on est contre la guerre, mais on est hors la politique, on ne s'intéresse pas, il faut qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils voient ce que fait leur État, ce que fait leur armée, ce qu'ils font leurs concitoyens, c'est pas pardonnable. Donc c'est tout simplement pas possible d'avoir ça au cœur de l'Europe.
Merci beaucoup, Tatiana Ogarkova, qui est toujours donc dans l'ouest du pays. On peut ajouter qu'il y a encore d'autres villes qui sont touchées par des missiles. Il y a peut-être un peu moins de frappes aériennes. Je pense à Odessa, Mykolaïv, et aussi dans le Donbass, où on sent que l'armée se prépare, mais serait davantage en train de se repositionner pour garder ce territoire qui, avant la guerre, on le sait, était contrôlé par des pro-russes. Donc, un élément important pour ce qui est de la position de Moscou. Ben depuis ce matin, on dit que c'est de la propagande créée de toutes pièces par les Américains, qui n'a pas eu cette boucherie, ces gestes ignobles, et que finalement, ce sont des prétentions pour justement affecter l'opinion publique. Mais en tout cas, ce qui est assez clair, c'est que il y a des enquêtes qui s'ouvrent, et là, on verra jusqu'où ça va aller, mais le gouvernement ukrainien, comme disait Tatiana, est en train de documenter tout ce qu'il y a, et on peut, quand on fait des comparaisons historiques, savoir que ce sont des procès, des enquêtes qui seront extrêmement longues. Mais partout, c'est l'indignation. Vous avez la Pologne également qui demande justement qu'on puisse y aller rapidement avec la création d'un tribunal international et aussi des sanctions économiques qui pourraient s'ajouter. Donc, on pourrait encore une fois se lier entre forces européennes et justement se priver du pétrole et du gaz russe, ce qui est un enjeu évidemment pour plusieurs pays, mais même l'Allemagne commence à le proposer. Alors voilà où nous en sommes en cette 40e journée de guerre en Ukraine. Et je le disais tantôt, on va parler avec Dr Joan Liu, qui est en Ukraine actuellement avec Médecins sans frontières. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle contribue à aménager un train hôpital. Et pour des patients qui sont stables, nous a-t-elle dit, mais aussi en train de développer l'idée d'un train pour soins intensifs. Parce qu'il y a des besoins, souvent ce qu'on voit, ce sont des patients qui arrivent d'un peu partout sur le territoire ukrainien et qu'on tente d'amener dans des secteurs moins à risque, plus stables, et pour être capable finalement de les soigner sans avoir à leur faire traverser la frontière. On va parler un peu de COVID ce matin. D'abord, tout le débat s'est poursuivi en fin de semaine sur la notion d'obligation du port du masque. On sait que Québec avait dit, on pense qu'autour de Pâques, on sera en mesure de lever l'obligation. Plusieurs experts, et là, c'est vraiment une bataille entre ceux qui pensent qu'il faut patienter et d'autres qui disent non, on le voit, de toute façon, il y a des cas de COVID un peu partout et la pression sur le réseau de la santé peut-être pas si grande que ça. Puis quand vous regardez dans votre entourage personnel, familial, professionnel, il y en a de la COVID, là. Puis des gens qui ont des symptômes, pour la plupart assez légers, même s'il y a un certain nombre de cas plus lourds. Alors, est-ce que la décision sera annoncée au début de la semaine? Normalement, on sait que lundi, c'est en fin de journée la rencontre de la cellule qui détermine la suite des choses. Alors peut-être que demain, on va avoir un nouvel avis du docteur Boileau. Et toujours la même question, est-ce que ce serait la fin du monde de se dire qu'on va attendre encore quelques semaines? Puis il y a des gens qui, de toute façon, même quand l'obligation va disparaître, vont continuer de porter le masque. Et c'est probablement la moins pire des contraintes qu'on a eues depuis le début de cette pandémie. Entre-temps, peut-être deux éléments qu'on peut ajouter. La Chine a déployé 2000 médecins militaires à Shanghai et 10 000 travailleurs de la santé, parce que là, il y a vraiment une explosion du nombre de cas, bien que ça ne se compare pas encore à ce qu'on a vu, là, toute proportion gardée, dans certains pays européens. Et il y a une étude qui démontre aussi, ça vient de sortir, c'est dans le New York Times, que les gens qui souffrent de diabète sont parmi, on le savait pas mal, là, mais disons que c'est confirmé par une étude scientifique, ont 30 à 40 plus de chances de développer les conséquences sévères de la COVID. En fait, ils représentent 30 % de tous les patients COVID décédés aux États-Unis. Les experts disent diabète, mais aussi autres facteurs de comorbidité. Et ce qu'on pouvait anticiper semble se confirmer maintenant avec cette étude. Et puis un mot sur les politiciens qui vont dans les résidences pour personnes âgées. On a vu ça du côté de la CAQ en fin de semaine. On comprend là, qu'il y a une élection, puis c'était le vote par anticipation. Mais on rappelle que les visites non essentielles et la visite d'un politicien dans une résidence, c'est pas essentiel. Tu comprends? De toute façon, on les voit que lors des campagnes électorales. Fait que c'est peut-être mieux de s'abstenir plutôt que d'aller comme ça se promener, bien qu'on porte le masque, bien qu'on respecte les règles. Mais tu sais, c'est bien, bien essentiel. Puis je pense pas que votre absence va faire l'objet de graves ennuis, puis que les gens vont vous appeler en disant « Oh, t'es pas passé aujourd'hui ». Tu sais, c'est quand même, là, faudrait pas exagérer. Le Devoir, ce matin, nous dit que réduction des activités chirurgicales. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau d'absentéisme élevé chez le personnel. On le savait, là, qu'il y avait des augmentations d'absence reliées à des cas COVID. Et donc, la docteure O'Patterney, qui est la responsable comme sous-ministre des activités chirurgicales, dit que ça va continuer à diminuer dans plusieurs régions cette semaine parce qu'on manque de personnel à cause de la COVID. Pardon. Il y a quelques 11 000 travailleurs du réseau de la santé qui sont absents et il y a notamment, disons, une pression plus élevée pour les hôpitaux qui se trouvent à l'extérieur du Grand Montréal, puis à l'extérieur de la grande région de Québec. Donc, la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue et le Bas-Saint-Laurent, on est en mode délestage et ça risque de s'accentuer au cours de la semaine. Donc, des patients qui vont rester encore plus longtemps sur les listes pour les chirurgies. Et je pense pas qu'on retrouve dans ces régions des cliniques privées qui peuvent accueillir des patients. On sait qu'à Montréal, autour, là, il y a des corridors qui ont été établis. Puis je rappelle le principe, là, c'est une clinique privée, mais c'est l'État qui paye, puis c'est l'État qui vous envoie dans cette clinique, ça ne vous coûte pas un sou. Puis au moins, ça permet, comme on dit, d'alléger le temps d'attente pour des chirurgies mineures, mais des chirurgies qui sont quand même importantes pour vous, pour votre qualité de vie. Alors, dans Le Devoir, vous allez retrouver tous les détails de ça ce matin. Également, une étude qu'on retrouve dans la presse, environ 6 % des élèves manquent l'école chaque jour au Québec. Et ça, c'est sans compter dossier COVID. Puis là, il y a toutes sortes de raisons. Le taux d'absentéisme. Puis là, on compte pas là, les enfants qui restent à la maison parce qu'ils sont positifs, par exemple. C'est un peu plus élevé qu'avant la pandémie. Et ça montre qu'il y a des enfants qui vivent des troubles d'anxiété. Là, on parle de primaire et de secondaire. Et ce qu'on peut découvrir à travers ça, c'est que ces enfants-là sont absents. Et l'anxiété, c'est une réalité beaucoup pour les filles. Il y en a pour les garçons aussi. Des jeunes anxieux, des jeunes qui en parlent, des jeunes qui sont pas bien à l'école. Des jeunes qui ont peur de l'intimidation, qui craignent de se présenter. C'est un problème sérieux. Puis là, je vous imagine ce matin, vous le savez que votre plus jeune ou votre enfant, ça ne tente pas d'aller à l'école. Puis là, il faut le pousser. Puis des fois, tu te demandes pourquoi il ne veut pas y aller. Puis il dit pas tout. En tout cas, c'est quand même un nombre plus important qu'avant la période de pandémie. Aussi, ce matin, facture assez importante pour la restauration. Donc, c'est une étude, qui a été menée en décembre. Puis je pense que on est assez lucide pour le constater soi-même. 83 % des propriétaires de restos augmentent le prix des menus. Toutes catégories confondues, là. Et selon les restaurateurs, c'est une hausse de 10 à 15 %. Puis dans la presse ce matin, on vous donne un exemple, là. La salade thaï au bœuf grillé servie dans les restaurants Zibo, c'était 22 $ en 2019, puis ça vous coûte maintenant 27 $. Puis ajoutez les taxes, puis ajoutez le pourboire. L'assiette de bœuf pour un restaurant a augmenté de 30 %. Et même les chaînes ont vu, par exemple, les prix augmenter de 10-15 %. Alors, la conclusion, c'est que même le plus simple des repas au restaurant va coûter nettement plus qu'avant. Ce qui fait que les gens vont faire des choix, vont sans doute ralentir un peu leur consommation au restaurant, parce que ça ajoute aussi une pression sur les autres prix, que ce soit l'épicerie, l'essence, bref, il y a un paquet d'enjeux comme ça. Mais est-ce qu'on est étonné de ça? Pas vraiment. Il y aura un rapport qui va sortir quand, on ne le sait pas trop, peut-être 11h, heure de Montréal, de l'ONU sur le climat. Il y a eu des négociations qui devaient se conclure vendredi, ça s'est terminé hier. Et dans le fond, après avoir présenté une étude sur le réchauffement de la planète, sur les changements climatiques, là on arrive avec des solutions pour amener une baisse des gaz à effet de serre et des solutions concrètes. Si on peut vous en parler ce matin, on va le faire. Mais l'espèce de trame de fond qui se dégage, disons, appelons ça un consensus d'experts internationaux, c'est que sans un changement de notre mode de vie, puis il faut détailler ce que ça veut dire, toute cible, puis j'y vais encore en fin de semaine, des ministres, le ministre Benoît Charrette qui dit, ben non, on peut pas faire plus. Parce que vouloir faire plus, ça voudrait dire modifier notre façon de faire, notre façon de vivre. Stephen Guilbeault, hier, à Tout le monde en parle, qui dit on va être obligé de probablement avoir des périodes de transition, on pourrait faire plus. Le militant écolo que je suis aimerait en faire plus, mais c'est pas le cas. Donc, ce matin, on aura les détails de ça. Ça va être intéressant à suivre. Louis Robert, je vais terminer là-dessus, qui prend sa retraite, agronome au ministère de l'Agriculture, qui avait dénoncé des pratiques notamment sur l'usage des pesticides, dans une entrevue à Radio-Canada, dit que, en fait, il déplore l'apathie des fonctionnaires qui n'osent pas dénoncer même des choses qui n'ont aucun sens à l'interne. Le fameux processus, avant d'en parler aux autres et aux médias, parlez à votre employeur, qui est le ministère. Et il dit que malgré ça, jusqu'à son dernier jour de travail, je cite, il a ressenti un malaise et que c'était un peu tabou. T'sais, on l'a ramené, là, mais l'employé qui dérange. Puis c'est un message qu'il envoie aux autres en disant que quand on est un employé de l'État puis qu'on est témoin d'une situation qui n'a aucun sens, il faut le dire. Idéalement à l'interne, mais je sais que des gens à l'interne qui concluent qu'il ne se passe rien, ou même dans certains cas qui peuvent être victimes de représailles.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Je pense que depuis quelques jours, nous sommes tous sous le choc de ces images qui nous arrivent d'Ukraine, de Boutcha, fosse commune, des cadavres trouvés dans la rue, des gens qui ont les mains liées dans le dos, des corridors humanitaires dans d'autres villes. On peut penser à Mariupol où ça semble extrêmement difficile. On évacue peu de gens à la fois. Une guerre qui en est à sa 40e journée, qui fait des morts, qui fait des blessés. et Médecins sans frontières se déploient sur le terrain, organisent des transferts de patients de l'Est vers l'Ouest. Donc, on veut éloigner le plus loin possible ces patients des zones de combat. Docteur Joanne Liu, l'ancienne présidente de Médecins sans frontières, pédiatre urgentiste à Montréal, est sur place actuellement. Docteur Liu, bonjour.
Bonjour.
Peut-être nous dire dans quel coin de l'Ukraine vous êtes et quel est votre mandat, votre mission actuellement?
Ben moi, je suis basée sur Dnipro, qui est dans l'est du pays, et donc est à l'est de Kiev. Et on est quelques centaines de kilomètres là, des points très chauds. Et donc, mon mandat, c'était de voir comment on pouvait soutenir au niveau des soins à l'est. Et là, on se rend compte que les hôpitaux qui sont près des lignes de front sont en pleine capacité et il fallait comme désengorger les hôpitaux. Et donc, on est venu avec l'idée, en collaboration avec les médecins ici, de dire ben comment on pourrait faire une éducation, mais de assez grand volume. Et donc, on a créé ce train médicalisé pour pouvoir faire une évacuation de plusieurs patients à la fois.
Pourriez-vous me dire là, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un train qui est aménagé pour des transferts? Là? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Donc, il y a une première partie, c'est qui qu'on sélectionne. Étant donné que là, c'est notre premier train qu'on a aménagé, qui n'est pas un train de soins intensifs, c'est on fait des transferts de patients qui sont stables. Donc, qui ont des pathologies, notamment le premier transfert qu'on a fait il y a quelques jours, c'était beaucoup de patients avec des fractures ouvertes, avec fixateurs externes, mais hémodynamiquement stables. Ça veut dire que la tension artérielle est stable, ils n'ont pas besoin d'oxygène. Ils ont besoin, par exemple, de soins de médecins et d'infirmières, parce qu'aussi, ces transferts-là, ça prend une certaine durée. Pour partir de, par exemple, Zaporizhzhia, où est-ce qu'on était, jusqu'à Lviv dans l'Ouest, c'était 20 heures de train. Donc, c'est une équipe médicale, un patient qui est stable, avec blessure, qu'on éloigne de la ligne de front pour, un, le protéger, deux, désengorger les hôpitaux, trois, lui permettre d'avoir des soins avancés pour ses blessures.
Vous me parlez de patients donc stables. Qu'est-ce qu'on fait avec des patients qui sont instables, des patients qui ont besoin de soins plus importants, de soins intensifs?
Oui, donc ces patients-là sont toujours dans les hôpitaux. Il y a des soins intensifs dans les hôpitaux, des hôpitaux qui sont régionales, qu'on appelle. Et éventuellement, dans les prochains jours, max quelques semaines, nous, on a aussi un train qui est en train de se faire aménager en Pologne, qui va avoir des lits de soins intensifs. Et à ce moment-là, on va pouvoir transporter des patients instables d'un point A à un point B.
Est-ce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement? Je pense à bien sûr, les médicaments. Je pense à des fournitures médicales. Est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin?
On a en partie ce dont nous avons besoin, mais on est toujours en consommation permanente de nos ressources. Donc, on fait venir du stock là, régulièrement. Il y a des choses qui sont plus en demande que d'autres, notamment si on regarde juste vu qu'il y a le nombre de blessés, tout ce qui est bandage, qui est ressources pour arrêter justement des saignements, tout ça, ben on est en besoin de ça, des choses assez simples. Mais il est important, là, je pense qu'on est tous dans un état encore de choc, mais on sait qu'il va peut-être avoir un resserrement dans les prochains jours et on va peut-être avoir beaucoup d'afflux de patients. Donc là, on se prépare un peu partout à l'accueil de patients en grand volume dans différents hôpitaux. Et donc, c'est une des raisons pourquoi qu'on accélère l'évacuation des patients de l'Est à l'Ouest.
Vous avez une expérience plus que pertinente du terrain en cas de conflit parce que ces patients-là qui vous arrivent avec des blessures physiques sont aussi des êtres humains qui ont vécu des choses horribles ou qui ont été témoins ou qui sont anxieux. C'est un pays qui est quand même en guerre. Comment vous combinez les deux, c'est-à-dire soigner quelqu'un pour une fracture puis prendre charge de quelqu'un aussi qui vit des moments difficiles?
Absolument. Puis merci de le mentionner, M. Marquand. Oui. Ces gens-là, ils ont été extrêmement éprouvés au niveau physique, mais au niveau santé mentale, émotion. c'est extrêmement prenant parce qu'ils nous racontent leur histoire. Et notamment, il y avait une patiente qu'on a évacuée il y a quelques jours. Et puis, elle m'a dit, il faut m'évacuer. J'ai eu une blessure au niveau du visage. J'ai perdu mon œil droit. Je veux qu'on me refasse belle comme j'étais avant pour mon mari, pour mon enfant. Et c'est ça aussi que on essaie de faire, c'est de leur donner accès à un niveau de soins avancé de chirurgie reconstructive et de chirurgie plastique éventuellement. Donc, on espère aussi qu'on va être capable d'acter cette haute étape-là, soit dans le pays ou soit à l'extérieur du pays.
On a eu évidemment des rapports de presse montrant que certains hôpitaux auraient été touchés, dans certains cas des cliniques. Est-ce que là où vous êtes, vous vous sentez en sécurité? Est-ce qu'on respecte l'organisme pour lequel vous travaillez ou s'il y a toujours des inquiétudes là, qui planent?
Oh, l'inquiétude est permanente. L'inquiétude est permanente et c'est quand même quelque chose à gérer comme... comme stress, il y a des alertes rouges régulièrement qui nous avisent qu'il faut aller se trouver une protection dans un sous-sol. Et donc, présentement aussi, il y a toute une préparation par rapport à aménager des urgences dans des sous-sols d'hôpitaux.
Pour être capable de s'y réfugier au besoin, donc.
Bien, de s'y réfugier, puis aussi pouvoir continuer à offrir des soins aux gens qui vont être blessés.
Parce que c'est clair que, bon, il y a beaucoup de gens blessés, on comprend, il y a des gens qui sont en déplacement, il y a des gens qui veulent revenir en croyant que leur ville a été libérée. Donc, vous devez conjuguer tout ça, puis d'essayer de comme je le disais, déplacer des patients de l'Est vers l'Ouest, tout en souhaitant que l'Ouest ne soit pas à nouveau peut-être victime d'attaques.
Absolument. Donc, ça fait quand même partie des possibilités, et donc c'est toujours, en fait, des solutions temporaires et on cherche toujours des meilleures solutions. Mais oui, c'est une espèce de vase communicant où on est en train d'augmenter une capacité d'accueil au niveau de l'Est. Et donc, on envoie des patients dans l'Ouest, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher sur la durée, parce que si ils commençaient à avoir d'autres attaques au niveau de l'Ouest, ben il va falloir aussi déplacer encore plus.
Parlez-moi un peu en terminant de l'expérience que vous vivez. Vous avez fait d'autres situations extrêmement complexes, à risque. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans ce que vous vivez actuellement en Ukraine par rapport à d'autres situations?
Oui, ben je pense que ce qui est différent, c'est que un, on a vu beaucoup de photos, beaucoup d'images avant, donc ça, je pense que ça crée une certaine anxiété d'une part, mais je crois aussi que la menace de missile qui peut nous tomber dessus n'importe quand, en étant dans certains endroits qui pourraient être de possibles cibles, comme les hôpitaux, c'est quelque chose qui demande une certaine gestion au niveau de notre anxiété, notre stress puis notre bien-être.
Docteur Liu, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Puis je demande aux auditeurs d'aider Médecins sans frontières, justement, pour pouvoir vous donner le maximum d'appui avec du matériel et tout ce qu'il faut pour faire votre travail. Merci, prenez soin de vous.
Merci, au revoir.
Au revoir. Docteur Joanne Liu, l'ancienne présidente de Médecins sans frontières, pédiatre urgentiste à l'hôpital Sainte-Justine. Parfois, on se demande comment aider. Ben ça, c'est un bel exemple de gens qui viennent de tous les coins du monde pour tenter d'apporter des secours, puis aussi réconforter les gens qui sont blessés physiquement et moralement par cette guerre.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Maintenant, Charles-Philippe David est avec nous. Charles-Philippe, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, on est à ce 40e jour de combat en Ukraine. La question de départ est très simple. Où en sommes-nous?
Eh bien, nous en sommes toujours au même point, avec énormément plus de barbarie, de toute évidence. Vous voyez, le témoignage qu'on vient d'écouter en est une autre preuve. Paul, l'armée russe se comporte tout sauf comme une armée selon les règles de la guerre. Et les violations du droit de la guerre et du droit de protection des civils est tellement évident, sont tellement aux yeux qu'on se dit, à ce rythme, il y aura un tribunal du style Nuremberg qui devrait être mis sur pied pour traduire, évidemment, si cela est possible, en justice, les généraux responsables, les commandants et jusqu'au chef d'État, oui, de la Russie, parce qu'ils reçoivent leurs ordres directement du Kremlin, de toute évidence. Non, c'est une boucherie, c'est une barbarie qui est, à l'instar d'autres, dans d'autres conflits qui se sont déroulés durant notre génération. Je pense par exemple, bien sûr, à la Syrie, mais je pense aussi au Rwanda, à la Bosnie, entre autres. Ce sont des choses au 21e siècle qui sont totalement inacceptables. Et pour ce qui est du conflit lui-même, je pense qu'on est toujours dans une impasse. Oui, les rapports du renseignement américain surtout nous disent que les troupes russes vont se repositionner tel qu'on l'avait déjà annoncé la semaine dernière vers l'est et le sud de l'Ukraine. Donc, quel est le but de Vladimir Poutine? Allez savoir exactement. C'est de prendre possession de ces territoires, de les annexer à la Russie, peut-être, de partitionner, diviser donc l'Ukraine, sans doute, d'obtenir par voie de négociation que tous ces territoires lui soient rétrocédés. Ça, moi, je suis beaucoup moins convaincu et sûr que Zelensky soit d'accord avec une telle perspective. Et puis le statut final de l'Ukraine, dont on a tellement discuté, statut de neutralité, qui serait garanti par des puissances étrangères. Mais on est loin d'atteindre tous ces objectifs parce que, sur le terrain, Paul, sur le champ de bataille, les choses évoluent tellement en pire. Je me demande si quelconque négociation peut trouver des solutions à tout cela. Ça va prendre énormément de temps pour démêler et pour trouver les dites solutions. Puis entre-temps, bien, les civils souffrent en très, 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 très grand nombre.
Ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point le discours change. Je regardais en fin de semaine en disant que Poutine et Zelensky pourraient peut-être enfin se rencontrer, qu'on aurait trouvé un certain nombre de compromis possibles. Ça tombe complètement le lendemain. Oui. C'est un conflit qui s'étire et des négociations qui s'étirent tout le temps.
On avait dit, on avait prévu que cette guerre serait longue. Au moins là-dessus, on ne s'est pas trompé. On avait sous-estimé les ambitions de Poutine. Là, on s'est trompé. Moi, je reste très, 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 très prudent pour prédire quoi que ce soit rendu à ce stade, Paul. Oui, les négociations peuvent peut-être produire quelque chose, mais comme tu viens de le dire, il y a beaucoup aussi de déception et de découragement chaque fois qu'on s'aperçoit que ce qui est dit, ce n'est pas ce qui arrive. Donc, je pense qu'on est dans une situation où tout peut survenir.
Parlons maintenant des sanctions économiques. Depuis la diffusion de ces images en fin de semaine, il y a beaucoup de voix qui se font entendre en disant il faut y aller d'une couche supplémentaire. Est-ce que tu penses que les Américains pourraient en ajouter? Est-ce que tu penses que l'Allemagne pourrait renoncer à du pétrole russe, donc mettre plus de pression encore?
Oui, c'est une bonne question. Ce n'est pas tant les Américains, là, cette fois-ci, qui doivent ajouter dans la lourdeur et dans la gravité des sanctions. Ce sont les Européens, ceux particulièrement qui dépendent énormément du pétrole et du gaz naturel russe pour leurs besoins énergétiques. Ceux-là, par exemple l'Italie, ce n'est qu'un exemple. Plusieurs de ces pays devront sans doute envisager d'imposer un embargo total contre entier et plein là, contre les importations de ces ressources énergétiques russes. C'est une autre façon par laquelle vous privez Vladimir Poutine et son régime, bien sûr, des avoirs et des revenus nécessaires pour financer cet effort de guerre et pour faire en sorte que l'économie russe puisse survivre. Vous savez, cette économie, elle va, selon les dernières prédictions du Economist Intelligence Unit, cette économie va perdre probablement à peu près entre 20 et 25% de son produit intérieur brut en 2022. Un pays qui perd un cinquième de son PIB, Paul, est vraiment un pays qui va être en difficulté très, très, très sévère. On a vu d'ailleurs durant le week-end des images, nous revenant de Moscou, où les gens font évidemment le plein de provisions de toute nature, parce qu'il y a vraiment une crainte que cette guerre va énormément aussi, bien sûr, affecter la population russe. Et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup d'individus quittent la Russie. Évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes nombres que l'Ukraine, mais c'est quand même pas rien quand on parle de 200 000 Russes qui ont quitté le territoire russe pour fuir cette guerre aussi. Alors, ce sont toutes des conséquences absolument épouvantables que provoque cette guerre.
Merci. Bonne journée, Charles-Philippe.
Je vous en prie.
Au revoir. Paul. Charles-Philippe David, qui est le président de l'Observatoire sur les États-Unis, fondateur de la chaire Raoul d'Endurant.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Maintenant, un rapport très attendu. En fait, c'est le troisième volet du sixième rapport des Nations Unies sur les gaz à effet de serre. On a eu le constat sur les changements climatiques et on doit rendre public aujourd'hui un rapport avec des solutions concrètes. Mais il y a eu, semble-t-il, des discussions assez ardues. Ça devait être terminé vendredi. C'est décalé encore pour quelques heures. Pierre-Olivier Pinault est avec nous, le professeur titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Monsieur Pinault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, le fait que ça soit retardé, qu'est-ce que ça allume chez vous comme réflexion?
Ben, c'est que les négociations sont difficiles. C'est pas des négociations au niveau des scientifiques. Les scientifiques, ils ont déjà rédigé leur peut-être 3 ou 4 000 pages de rapports, parce que ce sont des rapports de plusieurs milliers de pages. Ce sont les négociations politiques autour du résumé, un extrait, les grandes lignes, les grandes conclusions qui semblent poser problème.
J'écoutais hier le ministre fédéral de l'Environnement, tout le monde en parle, M. Guilbeault. J'ai lu les propos du ministre québécois, M. Charrette. Puis dans le cas de M. Charrette, qui dit, ben écoutez, on peut pas aller plus loin que ça, parce que dans le fond, ce qu'il laisse sous-entendre, pour atteindre des objectifs sérieux, ça suppose de remettre en question une partie de notre mode de vie.
Tout à fait. Et c'est là-dessus que les négociations échoppent. C'est qu'il y a, des tenants d'une approche plus technologique où on dit on va capturer le CO2 et le séquestrer sous terre. Donc, on ne change pas beaucoup nos modes de vie, mais on met des machines pour aspirer en quelque sorte le CO2 de l'atmosphère. Très coûteux, et c'est des technologies qui ne sont pas encore vraiment commerciales et parfaitement au point. Et il y en a d'autres qui disent non, l'urgence est telle qu'il faut réduire drastiquement notre consommation de pétrole, de charbon, de gaz naturel. Et pour ça, c'est clair qu'il faut renoncer à beaucoup des véhicules qu'on connaît. Il faut renoncer à l'étalement urbain. Il faut avoir une alimentation différente aussi. Semble-t-il, les Brésiliens ne sont pas contents que dans le rapport, on parle d'une alimentation plus basée sur les végétaux et moins sur la viande. Mais ça fait partie des changements à faire pour vraiment lutter efficacement contre les changements climatiques.
Et comme autre changement, on peut s'attendre à quoi comme proposition, vous pensez?
Les grandes propositions, c'est de densifier les villes, d'avoir des villes plus compactes, davantage de transports en commun. C'est évident que pour réduire très rapidement la consommation de pétrole, et ça c'est parfaitement en phase avec les remous géopolitiques qu'on connaît, il faut délaisser la voiture individuelle en grande partie, avoir beaucoup plus de covoiturage, beaucoup plus de transports en commun, de transports actifs, des petits véhicules, des véhicules électriques, les avions aussi, on doit devoir diminuer. Les avions, même si c'est pas dominant à l'échelle mondiale, c'est une consommation de pétrole en croissance. Donc, c'est des changements importants qui peuvent avoir beaucoup de co-bénéfices, c'est-à-dire des bénéfices en santé, des bénéfices en qualité de l'air, en maladie. On sait que tout le secteur de la santé se réjouirait d'avoir une population qui est moins assise dans ses véhicules, qui mange plus de végétaux parce que c'est plus équilibré. Donc, en fait, il y a des bénéfices importants, mais encore une fois, des changements personnels et sociaux importants.
Je voyais ce matin les réticences, par exemple, de la Chine, de l'Inde, de l'Arabie saoudite qui veut avoir des garanties sur sa production pétrolière. Donc, des joueurs importants, s'il n'y a pas de volonté de leur côté, va être difficile quand même d'avoir une stratégie planétaire efficace.
Tout à fait. Un des points qu'on n'a pas mentionné encore, c'est le financement. Des pays comme l'Inde et la Chine se disent, mais il faut que vous nous aidiez à financer cette transition énergétique pour installer des énergies renouvelables, éoliennes, solaires. Il faut pouvoir qu'il y ait un plus grand partage des technologies et un financement plus adéquat. Et ça, c'est très difficile aussi. Aux États-Unis, on sait qu'ils n'ont pas un grand appétit pour l'aide internationale financière. Et c'est problématique. Évidemment, l'Arabie saoudite, dont l'économie repose sur le pétrole à presque 100%, sera très désavantagée si on sort de ce monde pétrolier.
Merci, M. Pinault. On va voir aujourd'hui, dans quelques heures, les grandes lignes de ce rapport. Pierre-Olivier Pinault est professeur titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Notre invité ce matin nous présente un roman graphique. C'est pas n'importe quel exercice. Sur la route de Bachot. Dany Laferrière, bonjour.
Bonjour, Paul Arcan.
D'abord, pourquoi faire un roman graphique? L'idée vient d'où? C'est quand même une démarche, là.
Oui, assez exceptionnelle, assez rare. Et ça vient de la fatigue.
La fatigue?
La fatigue. J'étais... Et très fatigué après deux événements majeurs. Et j'avais eu en 2009 un prix littéraire, et le prix Médicis, dont la dernière fois qu'on l'a eu au Québec, c'était il y a 47 ans avec Marie-Claire Blais et son magnifique livre « Une saison dans la vie d'Emmanuel ». Donc j'étais fêté ici au Québec, en France et en Haïti. Et quand c'est pas souvent que ça arrive... Et tous les yeux sont tournés vers vous et tous les gens qui écrivent, tous les gens qui s'intéressent à la chose écrite et vous parlent et vous trouvez dans l'obligation, moi c'est une obligation pour moi, de répondre aux gens qui m'écrivent. Et donc ça m'avait épuisé. Et je suis allé en Haïti et c'était juste après, 3 ou 4 mois, le 12 janvier et 2010, le tremblement de terre de Port-au-Prince. 300 000 morts. Et comme j'étais la personne qui était sur l'affichage électronique, tous les yeux se sont tournés, cette fois-ci pas pour une fête, mais pour une tragédie vers moi, pour que je puisse interpréter ce drame qu'on peut pas expliquer, qu'on peut pas décrire, le tremblement de terre, surtout quand c'est votre ville natale qui part en poussière. Mais là encore, c'est une obligation. Quand vous voulez devenir la voix populaire, la voix de ceux qui n'ont pas de voix, il faut à certains moments et prendre ça en charge. C'est un devoir. Je l'ai fait et j'étais très épuisé. 3 ans plus tard, un autre événement. J'entre à l'Académie française. Alors là, l'Afrique entre puisque je viens après et Léopold Sédar Senghor et ça c'est tout le monde francophone. Et je ne savais plus quoi faire. Je faisais des rêves. Et dans les rêves, j'étais couvert de crabes qui me pinçaient. Et je me réveillais, je me levais dans le rêve et les crabes tombaient et faisaient un son métallique sur le carrelage. J'avais l'impression d'être dévoré de partout, d'être par des gens qui me voulaient du bien, en plus, et qui à chaque fois me demandaient une petite chose minuscule que je ne pourrais pas refuser. Mais quand ça fait des milliers... Vous devez savoir ça. Et ça devient trop. Et un jour, j'ai mis une feuille et j'ai commencé à dessiner moi qui n'avais jamais dessiné. Et j'ai senti une paix, une sérénité, parce que pour la première fois, je touchais une feuille de papier sans idée d'écrire un livre. C'était juste un enfant qui jouait avec des couleurs. Et au fur et à mesure que ça se développait, disons, le réflexe chez tout individu qui est habitué à publier est arrivé. Je me suis dit, il y a là peut-être la possibilité de changer de forme et d'aller dans quelque chose de plus ludique. Et comme je ne suis pas un bon dessinateur, disons à l'époque, là on voit ça s'améliorer un peu, donc je me suis dit, je vais écrire de bons textes à côté, ça je sais faire. Et qui pourrait suppléer, parce que j'ai vu beaucoup de livres avec dessins très bons, mais les textes sont pas si bons.
Mais vous parlez donc de Sur la route avec Bachot, c'est un auteur d'une autre époque que la vôtre, insulaire comme vous aussi, japonais. Et dans ce roman-là, vous êtes à la fois dans des événements très contemporains et aussi dans des réflexions beaucoup plus globales, si on veut.
Oui, c'est cela. Je voulais faire un livre un peu universel, ne pas être dans le local, parce que j'avais envie d'ouvrir la fenêtre, de regarder dans le monde, d'aller voir. Et d'abord, si j'étais capable, si j'en avais l'autorité. Vous savez, le monde est séparé. Il y a des gens à qui on dit, vous avez un petit espace, par exemple, vous êtes ouvrier, vous avez votre usine, faites votre vie, essayez d'envoyer vos enfants à l'école si c'est possible, faites-leur un bon avenir, mais c'est votre place. Il y a des gens à qui on dit autre chose, et il y a des gens quand même qui ont le droit de circuler et d'avoir une opinion sur tout ce qui se passe. Moi, naturellement, je n'avais pas cela. Vous savez, j'ai vu des chiffres qui disent, c'est 5 générations pour toute l'Amérique latine, c'est près de 310 ans. Pour passer de la pauvreté à la classe moyenne. 310 ans, c'est beaucoup. Mmh. Et en France, c'est 220, c'est énorme, les mouvements. C'est-à-dire, maintenant, par exemple, pour un noir de parler et de ne pas, pour qu'on ne fasse pas référence à lui comme noir, comme avoir un regard noir, et c'est assez énorme.
Mais
c'est...
vous avez des phrases extraordinaires dans les, j'en ai retenu quelques-unes. Vous dites, on est le matin avec les médias, on gouverne durant le jour avec les ministres et on meurt le soir avec les conspirateurs.
c'est un résumé. Oui. Là ça vous parle. Là,
parce absolument.
Parce que vous, puisqu'il faut se lever, c'est ça, on est le matin. Et c'est vrai, j'ai l'impression que...
Mais tout ce monde-là de la conspiration, vous en pensez quoi?
c'est là. Et ce livre est un constat. C'est une sorte de photographie. J'ai pas essayé de juger ni de penser. Mmh. Ce que je vois est déjà une explication de la tragédie de notre époque. Parce que ça devrait pas être ça. On est avec les médias, on gouverne avec les ministres, on meurt avec les conspirateurs, et demain on change de peau. Et on change de peau, carrément. C'est-à-dire, il y a les gens qui sont dans des turbulences, comme les gens de la politique. Ils sont dans des turbulences. Moi, j'ai un respect énorme. Et souvent, j'ai dit ça aux écrivains. J'ai dit, vous avez une petite critique, vous vous couchez par terre. Imaginez si vous avez 10 000 personnes sous votre fenêtre à dire votre nom, à vous conspuer, à brûler votre image, vous serez mort. Donc, et j'ai dit aussi une autre chose que je salue chez les gens de la politique, c'est leur capacité de faire du porte-à-porte en campagne électorale. J'aurais aimé avoir ce courage pour faire la même chose pour mes livres. Aller frapper aux portes, dire, madame, je pense que vous devriez lire ce livre.
Et voici pourquoi.
Oui, et voici pourquoi. Et non jouer à la modestie. Si vous avez pris 2 ans pour faire un livre, vous devriez le défendre aussi. Comme quelqu'un qui a un projet politique voudrait le défendre. Donc, pour moi, c'est pas du tout celui qui donne des coups de poing. Mais par contre, on a beaucoup, les politiques m'ont beaucoup déprimé. Les gens de la politique, surtout en Haïti, par exemple, qu'ils fassent barrage avec le bien-être du grand nombre, c'est inadmissible. Qu'ils prennent toute cette énergie pour faire quelque chose d'aussi négatif. Alors là, c'est pas acceptable.
Une autre phrase, vous dites, mon intention n'a jamais été de comprendre le monde ni de le changer, simplement d'y vivre.
Je crois que c'est pour dire que le monde manque de modestie. Chaque personne que vous voyez est un gérant d'estrade de la planète. C'est bien peut-être de vouloir avoir une opinion, mais dans cette bousculade-là, on manque de modestie parce que le simplement d'y vivre... C'est tellement important, ça veut dire d'être attentif aux détails. Simplement d'y vivre, c'est pas de vivre comme si on était une pierre au bout de la route, ni un arbre et sur le côté. C'est être attentif à tous ces minuscules détails. Et je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais vu une sorte de lithographie de l'armée napoléonienne qui passait au loin sur la plaine. Et de voir un paysan assis sous un arbre en train de regarder cette armée qui passe, et avec tous les espoirs d'une conquête, et qui revient battu. Lui, il n'a pas bougé. Et je crois que si on peut voir l'image sans voir le paysan, mais c'est lui qui est pérenne, c'est lui qui reste. Et c'est lui qui... C'est la vie... C'est lui. Parce que finalement, c'est à cela qu'on va arriver, quelqu'un qui plante un arbre.
Dany Laferrière, merci beaucoup. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est fascinant de s'arrêter à chaque phrase que vous avez écrite, accompagnée. Et c'est vrai que vous êtes pas mal en dessin quand même.
Eh bien, merci.
Merci d'être venu.
Eh bien, merci.
Dany Laferrière, sur la route avec Pachaud, c'est présenté par Boréal.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.